21 janvier 1983, Raymond Père Philippe.
Nous constatons que tout ce qui existe n'existe pas nécessairement, sinon tout aurait toujours existé. Il faut donc que les deux choses reçoivent leur existence, une réalité qui est nécessaire, qui est une parce que acte pur, et qui par là ne peut pas ne pas être. Donc Dieu est. Très bien comme raisonnement. Je ne sais pas si c'est une objection ou pas une objection. Nous constatons que tout ce qui existe n'existe pas nécessairement. Donc existe avec la contingence. Il y a des choses qui meurent. C'est la tertia via de saint Thomas que nous verrons. Alors je ne vais pas la développer maintenant, mais nous la verrons à tertia via de saint Thomas. C'est de fait, c'est ça qu'il faut essayer de saisir, comment les différentes étapes que nous voyons vont aboutir aux cinq voies. Là, il y a des enracinements dans cela, vous voyez. Je ne les vois pas progressivement, ce serait beaucoup trop long, mais j'aime bien de vous préciser ces différents moments de la recherche de saint Thomas pour voir que de fait, les cinq voies de saint Thomas ne sont pas tombées du ciel. Hein. Saint Thomas, il y a eu tout un travail, toute une élaboration longue. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Alors, je vous disais la dernière fois qu'avec le De Veritate, c'est des questions disputées. Hein. C'est des questions très importantes. Le De Veritate, c'est d'ordre plus philosophique souvent que beaucoup d'autres œuvres théologiques. Le De Veritate a ce point de vue intéressant, c'est que justement, saint Thomas discute, et alors il y a certaines précisions qui se font. Je reprends, si vous voulez, l'argumentation que nous avions déjà vue la dernière fois, et cette argumentation, c'est donc dans la question, De Veritate, question 10, article 12, où saint Thomas dit ceci, n'est-ce pas ? Dieu a un essai plus vrai que l'âme humaine, mais l'âme ne peut pas penser qu'elle n'existe pas. Elle peut donc encore bien moins penser que Dieu n'existe pas. C'est très curieux comme petite argumentation. Ne pensez pas trop à ce que vous n'existez pas. Vous se volatiliser de cette manière-là. Non ? Et dire, bon, puisque j'existe, donc Dieu nécessairement existe. Vous voyez, tout l'ontologisme qui peut être là présent. Par Dieu a un essai plus vrai que l'essai humain. Tout dépend de savoir, ce sera la distinction que fera saint Thomas ensuite, qui, si l'objection ne fait pas. Dieu a un essai plus vrai que l'âme humaine, c'est bien évident. Mais la question, ce n'est pas de savoir si Dieu en soi a un essai plus vrai, c'est de savoir si je connais cet essai par rapport à moi-même. Mon âme ne peut pas penser qu'elle n'existe pas, elle ne peut donc bien moins penser que Dieu n'existe. Alors, réponse de saint Thomas. Il y a deux manières dont quelque chose peut être pensé comme n'étant pas. Deux manières de concevoir le non-essai. Intéressant. Deux manières de concevoir le non-essai. D'une première manière, de telle sorte que les deux tombe simultanément dans l'appréhension. Alors je dis ça, c'est parce que ceux qui s'intéressent à l'appréhension, c'est un lieu très intéressant. C'est un lieu très intéressant parce qu'on voit qu'ici, saint Thomas va concevoir l'appréhension de deux manières différentes. Donc quand saint Thomas parle de l'appréhension sans préciser, on doit toujours se rappeler que pour saint Thomas, il y a deux manières de concevoir l'appréhension. Et ainsi, rien n'empêche que quelqu'un se pense comme n'étant pas. Cogitet, c'est non-essai. Et le cogitet, saint Anselme, hein, cogitet. Comme il pense qu'à un moment donné, il n'a pas été. C'est l'argumentation que reprendra Maritain. À un moment donné, je n'ai pas été. C'est bien évident. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Il faut remonter plus ou moins loin. Mais à un moment donné, nous n'avons pas existé. N'est-ce pas ? Donc, comme il pense qu'à un moment donné, il n'a pas été. Cependant, il est impossible que tombe simultanément dans l'appréhension que quelque chose soit tout et moins que Moïse. Dans l'appréhension que quelque chose soit tout et moins que la partie, parce que l'un des deux exclut l'autre. Donc, deux manières de regarder dans l'appréhension. Le point de vue de l'essence et le point de vue de l'existence. D'une autre manière, quelque chose peut être pensé comme n'étant pas de telle sorte qu'à cette appréhension soit jointe l'adhésion, la sensus. Donc, voyez, l'appréhension peut impliquer le jugement. Et l'appréhension peut ne pas impliquer le jugement. Et ainsi, nul ne peut penser avec adhésion, cum assensus, qu'il n'est pas. Car du fait même qu'il pense quelque chose, il perçoit qu'il est. Donc, j'espère que vous comprenez ce petit raisonnement de saint Thomas qui est très subtil, mais qui est intéressant. Hein, qui est intéressant. C'est donc, il y a donc l'appréhension. Ordinairement, quand on parle d'appréhension comme opération de l'esprit, on la pense comme première opération de l'esprit, distincte de la seconde, qui est le jugement. Ici, saint Thomas nous dit, et c'est pour répondre à une objection, saint Thomas nous dit que l'appréhension peut être comprise de deux manières différentes. Cum assensus. Alors, c'est l'appréhension avec le jugement. Ou sine assensus. C'est l'appréhension sans le jugement. Deux états particuliers où je peux regarder l'appréhension. Donc, si je regarde l'appréhension cum assensus, je ne peux pas penser simultanément que j'existe et que je n'existe pas. C'est évident. Vous vous appréhendez comme existant, vous ne pouvez pas penser en même temps que vous n'existez pas. C'est contradictoire. On ne peut pas penser dans le temps. Ça, je crois que c'est assez facile à comprendre. Mais si je regarde l'appréhension sine assensus, je peux alors regarder qu'en effet, à un moment donné, je n'existe pas. Donc je peux dans l'appréhension voir à la fois que je n'existe pas et que j'existe. Mais pas simultanément. C'est assez facile à comprendre. Intervient le temps ou n'intervient pas le temps, si vous voulez. Alors, le non-essai, peut être directement regardé avec assensus. Alors, à ce moment-là, il s'oppose à l'essai. Le non-essai peut être considéré en lui-même. À un moment donné du temps, je n'ai pas existé. Et maintenant, actuellement, j'existe. Donc je fais la différence par le point de vue du temps, parce que c'est signé appréhensionné. Alors je peux regarder la différence momentanée. Bon, je n'insiste pas, c'est facile, je crois, à comprendre ça. C'est pas très important. Mais c'est quand même très intéressant de voir que saint Thomas ne tombe pas et ne parle, n'accepte pas le point de vue de la majeure. C'est que l'essai de Dieu est plus vrai que mon essai, donc il est plus difficile de nier l'existence de Dieu que mon propre existence. C'est juste inverse. Il est plus facile de nier l'existence de Dieu que de nier ma propre existence. Je ne peux pas nier ma propre existence, tandis que je peux nier l'existence de Dieu. Oui. Donc là, saint Thomas ne tombe pas du tout dans l'erreur de l'ontologisme. Dans l'erreur de l'ontologie, c'est considérer que l'existence de Dieu est plus difficile à nier que ma propre existence. Pourquoi ? Parce que je considère qu'en saisissant mon existence, je saisis l'existence de Dieu. Ça, c'est l'ontologisme. Voyez-vous, l'ontologisme tel qu'il il va exister après, mais qui est déjà l'état larvé dans les objections de saint Thomas. Un ontologiste qui provient de saint Anselme. Relevons encore, c'est ça qui est le plus intéressant. Si vous voulez, je peux lire ça. Précisons sur quoi porte exactement la réponse de saint Thomas. C'est l'objection que je viens de vous lire. Hein. L'objection soutenait que l'âme humaine ne peut penser qu'elle n'existe pas. et donc a fortiori que Dieu n'existe pas. Saint Thomas distingue, au niveau de l'appréhension considérée en elle-même, l'âme humaine peut penser qu'elle n'existe pas. Tandis que si l'appréhension implique la sainte source, c'est-à-dire le jugement qui porte sur l'essai, du fait même que l'âme humaine pense que quelque chose existe, elle perçoit qu'elle existe. Elle ne peut donc pas penser qu'elle n'existe pas. Saint Thomas reconnaît donc que la simple appréhension qui ne regarde que le possible ne nous permet pas de trancher entre l'essai et le non-essai, puisqu'on ne peut passer de l'intelligible à l'essai. Donc ça va directement contre tout le point de vue de l'ontologie. C'est ça l'intérêt, ce passage. Je crois que c'est le premier moment où saint Thomas le dit plus explicitement. Relevons encore un autre passage. Alors celui-ci nous intéresse plus par rapport aux voies d'existence de Dieu. Le premier, c'était uniquement par rapport à saint Anselme. Se demandant si le monde est régi par la providence. De Veritate, question 5, article 2. Saint Thomas, après avoir rappelé l'erreur de ceux qui nient la providence, parce qu'ils ramènent tout à la cause matérielle, montre que l'on ne peut prétendre que tout arrive par hasard. Car ce qui arrive par hasard arrive rarement. Or, nous voyons que ce qui convient ou que ce qui est utile arrive dans les œuvres de la nature, soit toujours, soit la plupart du temps. Argument à saint Thomas. Je vous lis le texte de saint Thomas. Il n'est donc pas possible que ces choses arrivent par hasard, et ainsi il faut qu'elles procèdent ex intentione finis. A toujours cette opposition, qui n'est pas si commode que ça à bien comprendre, que les choses arrivent ou par hasard, ou avec une intention de fin. Et pour saint Thomas, c'est une division exhaustive. C'est ça qui est intéressant à voir. Vous voyez que c'est la première fois où intervient ex intentione finis. Jusque maintenant, tous les arguments de saint Thomas portaient sur la cause efficiente. C'est la première fois où saint Thomas fait intervenir la finalité. Il s'agit de la providence. Mais ce qui est dépourvu d'intelligence ou de connaissance ne peut tendre immédiatement vers une fin que si celle-ci lui est assignée d'avance par une certaine connaissance, et s'il est par cette connaissance dirigé vers cette fin. Il faut donc, puisque les réalités naturelles sont dépourvues de connaissance, que préexiste une certaine intelligence qui ordonne les réalités vers leur fin, à la manière dont le Sagittaire imprime à la flèche un certain mouvement afin qu'elles tendent vers une fin déterminée. C'est pourquoi, de même que la percussion qui se fait par la flèche n'est pas dite seulement œuvre de la flèche, mais de celui qui la lance, de même aussi, toute œuvre de la nature est dite par les philosophes œuvre d'une intelligence. C'est la fameuse comparaison qui est très intéressante quand on la voit ici. Et ainsi, il faut que le monde soit gouverné par la providence, donc par la providence de l'intelligence qui a mis dans la nature l'ordre que nous constatons. Prenez l'exemple de la flèche, parce que c'est toujours cet exemple-là que prend saint Thomas. L'exemple de la flèche. La flèche est lancée selon un certain ordre pour atteindre son but, la cible. Tout le monde sait que quand on voit la flèche se diriger dans un certain ordre, qu'il y a eu quelqu'un qui l'a mue. Autrement, elle partirait n'importe où, elle tomberait tout simplement. Alors, il y a les deux aspects. Il y a la cause efficiente et la cause finale. La cause efficiente, elle, est tout imprégnée de causalité finale, puisqu'elle est dirigée. De même la nature, l'ordre que nous voyons dans la nature, puisque la nature, selon son appétit naturel, n'a pas la connaissance, et cependant cette nature est toujours orientée vers le même but, la constante. Les hirondelles font leur nid. On ne leur a pas appris. Elles font leur nid. Et si je suis attentif, je vois toujours que c'est des nids à peu près faits de la même manière, de telle sorte que, vu même de l'extérieur, je dirais que c'est un nid d'hirondelle. C'est pas un nid de moineau, c'est un nid d'hirondelle. Les hirondelles ont leur manière particulière de faire leur nid. Et pourtant, on leur a pas appris. Or, faire un nid implique un ordre. On sait très bien. On ne fait pas n'importe comment. Implique un ordre. Il y a donc un ordre dans cette opération naturelle. Cet ordre dans cette opération naturelle présuppose une intelligence. Parce que cet ordre est en vue d'une fin. Réaliser le nid en vue de mettre dedans des petits œufs et en vue qu'au bout d'un certain temps, ces petits œufs puissent donner des petits. Donc il y a un ordre dans la nature. Ce n'est pas fait selon le hasard. Ce n'est pas fait n'importe comment. C'est fait selon un ordre. S'il y a un ordre et qu'il n'y a pas de connaissance, il faut nécessairement qu'il y ait une fin antérieure. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir ce premier moment de l'argumentation qui est si importante, que nous allons voir ensuite, qui va être l'argumentation la plus importante de toutes les voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Ne sommes-nous pas ici en présence, pour la première fois chez saint Thomas, de l'usage de la causalité finale en vue de découvrir l'existence de l'être premier? L'influence d'Aristote est ici manifeste. On retrouve son exemple. Ça, c'est la trace. Donc l'influence d'Aristote est ici manifeste. C'est sa découverte propre, celle de la finalité dans les réalités physiques, qui est utilisée ici d'une manière toute nouvelle. Donc je vous renvoie simplement, ce n'est pas développé. Mais il y a un moment où saint Thomas dépasse sa causalité efficiente. Pour voir la causalité finale. Et je crois que ce moment dans les œuvres de saint Thomas, vous me direz si c'est bien ça, dans la mesure où vous aurez lu toutes les œuvres de saint Thomas, pour voir si cette petite épingle n'existe pas autre part. N'est-ce pas ? Alors, je vois maintenant quatrième moment, je présume, hein. Je ne sais plus, c'est quatrième, il n'y avait qu'à noter, ça n'a pas d'importance. Le contrat gentilesse. Donc, nous avons vu le De Veritate, le DNT, les commentaires des Saint-Thomas. Donc, c'est le quatrième. Contra Gentiles, 1258-1264. Donc, c'est plus tardif que le De Veritate. Ça chevauche, hein. De Veritate va jusqu'à 59. Mais comme c'est difficile, hein. Saint Thomas avait plusieurs ateliers en même temps. Saint Thomas n'était pas l'homme qui s'enfermait. Je fais le contrat gentilesse. Maintenant, ne me dérangez pas jusqu'au moment où j'aurai terminé. Non. Il y avait le contrat gentilesse, et puis il y avait des questions disputées en même temps. Et puis il y avait ses cours. Cependant, alors, quelques mots sur le contrat gentilesse. J'espère que. Il faut dire contrat gentilesse et non pas contrat gentesse. N'est-ce pas, c'est plus exact. Cependant, c'est le contrat gentiles qui va nous montrer, qui va nous mettre en présence d'une influence massive d'Aristote. Influence qui va modifier profondément la manière dont saint Thomas expose ce qu'il appelle ici les voies permettant de démontrer que Dieu existe. Donc les voies de démontrer que Dieu existe. Donc c'est saint Thomas qui est le premier sans doute a dit ça. Ou encore, les raisonnements permettant de prouver que Dieu existe. N'oublions pas du reste l'intention très spéciale de cet ouvrage comparativement au commentaire des sentences. Donc un tout petit mot sur le contrat gentilès. C'est une manière pour vous d'entrer dans Saint-Thomas, hein, par le sommet. Alors c'est bon de voir successivement commentaire des sentences, le DNT Sancia et puis le De Veritate. Alors maintenant, quatrième plat. Et un plat, alors celui-ci, il est très substantiel, vous allez voir. Il s'agit pour saint Thomas d'exposer contre les gentils, c'est contre les gentils, ce que notre intelligence peut découvrir par elle-même sans recourir à la foi. C'est net comme intention. Et ça, ça me semble capital de le souligner. Ce que notre intelligence peut découvrir par elle-même sans recourir à la foi. Et en dernier lieu, de montrer ce qu'elle découvre à partir de la révélation. Donc nous avons le premier livre où il nous est montré nettement le partage des autres, la raison, la foi. C'est pour ça que c'est un livre capital, hein, contre Gentilès. Comme c'est traduit, vous êtes impardonnable de ne pas le lire. Hein. Et c'est un grand livre, hein. C'est un grand livre, le contrat gentilès. Et on peut l'aborder assez vite, au moins les premières questions. On peut l'aborder assez vite. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les limites que saint Thomas fait, jusqu'où va avoir la raison. Jusqu'où la raison est obligée de s'arrêter. Après avoir rappelé les deux opinions contraires, l'opinion de ceux qui prétendent qu'on ne peut démontrer l'existence de Dieu parce qu'il est évident que Dieu existe et qu'on ne peut pas penser le contraire. Vous voyez, hein, on retrouve quelqu'un par derrière. Hein, vous voyez bien. J'espère que vous reconnaissez ça. Contra Gentilès, donc au livre 1er, chapitre 12 et 13. Donc, première opinion, l'opinion de ceux qui disent qu'on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu, puisque c'est évident. On ne démontre pas l'évidence. C'est une perte de temps. Et l'opinion de ceux pour qui il est tout à fait inutile d'essayer de prouver l'existence de Dieu, parce qu'on ne peut la découvrir que par la révélation et la foi, le fidéisme. Donc, d'un côté, c'est un père de l'Église, donc on doit regarder avec vénération. De l'autre côté, c'est pas précisément les pères de l'Église. Mais il y a quand même, je crois, quelques pères de l'Église si on dit des choses comme ça. Parce que vous trouvez tout dans les pères de l'Église. Hein. Vous trouvez tout. C'est pour ça que c'est pas entièrement formateur. Parce que si vous retournez, je me souviens, c'était il y a déjà longtemps. Bien avant la crise que nous vivons maintenant. C'est un bon père jésuite. Le père Bernard, pour ne pas le nommer, qui a dit dans un congrès psychiatrique qu'il avait deux maîtres, Saint-Ignace et Freud. Alors c'est bien. Alors le bon père Bernard, disant à un autre bon père de Saint-Sulpice, disant « La compagnie a compris. La seule manière de relativiser saint Thomas, c'était de revenir au père de l'Église. Parce que par là, on noie le poisson. On montre que la position de saint Thomas, oui, c'est une position. Mais ce n'est pas la position de l'Église. Parce que les pères de l'Église ont soutenu des tas de choses différentes que saint Thomas a rejetées. Donc, pour relativiser saint Thomas et non plus considérer que la doctrine de saint Thomas, c'est la doctrine de l'Église, il s'agit de revenir aux pères de l'Église. Vous voyez l'intention. Et c'était dit comme ça. Hein. De toute façon, alors, il parlait du péché originel, entre autres. Et en montrant du péché originel que les pères avaient soutenu des tas de théories différentes du péché originel, ce qui est vrai. Alors chaque père jésuite était orienté vers tel ou tel père de l'Église pour remettre en valeur ce père de l'Église et montrer par le fait même que la théorie de saint Thomas sur le péché originel, c'était quelque chose de relatif et qu'il ne fallait pas considérer ça comme... Alors il oubliait à ce moment-là qu'il y avait le concile de Trente et que le concile de Trente n'était pas la théorie d'un théologien même s'il suivait saint Thomas, du fait même que c'était un concile, il dépassait saint Thomas, même si matériellement il disait exactement ce que saint Thomas disait. Et c'était un concile. Alors évidemment, à partir de là, on n'a pas le droit de relativiser un concile en venant au père de l'Église. On a le droit de relativiser un théologien en venant au père de l'Église. Vous voyez, relativiser matériellement. Parce qu'il faut considérer qu'il y a une recherche de la vérité. Si un théologien dit la vérité et que les pères de l'Église ont tâtonné dans ce domaine-là, nous devons suivre le théologien qui a dit la vérité. Et non pas revenir au père de l'Église en disant c'est plus ancien. Ce n'est pas un critère, ça. L'ancienneté n'est pas un critère de vérité. C'est un critère quelquefois de sagesse, mais ce n'est pas un critère de vérité. Et donc il ne s'agit pas de revenir à ce qu'il y a de plus ancien. Au point de vue art, on peut faire ça de temps en temps, vous savez. Pour les archéologues, c'est très intéressant. C'est vrai, ce sont des pièces qui ont plus de valeur parce qu'elles sont plus anciennes. Mais lorsqu'il s'agit de la vérité, ce n'est pas ce qu'il y a de plus ancien qui a plus de valeur. C'est ce qui est de plus vrai. Et ce que l'Église considère comme plus vrai. C'est-à-dire que l'Église assume dans sa tradition. Je vous dis ça parce que c'est très intéressant. On vit ça hein, aujourd'hui. Alors c'est pour ça que c'est intéressant de voir l'intention. Ex intentione finis. Autrement, vous pourriez croire que c'est le hasard. Non, non, non. Il y a une intention. Après avoir rappelé ces deux opinions contraires, donc celles que je viens de vous dire, c'est important de voir ça, que saint Thomas souligne tout de suite, quand il s'agit de la démonstration de l'existence de Dieu, les deux opinions contraires, les deux opinions les plus opposées. Celle qui dit que l'existence de Dieu est évidente, et saint Thomas maintiendra toujours ça, hein. Il maintiendra toujours cette opinion, l'opinion de saint Anselme. Pas besoin de démontrer l'existence de Dieu, c'est évident. Deuxièmement, impossible de démontrer l'existence de Dieu, Dieu ne peut être démontré que par un choix. Faites vos choix. Troisième position, celle de saint Thomas, qui n'est ni l'une ni l'autre. La seconde position, c'est de dire per solum viam fidei et revelationis, par la seule voie de la foi. Saint Thomas précise que dans les raisonnements par lesquels on démontre que Dieu existe, il ne faut pas prendre pour moyen terme l'essence ou la quidité divine. C'est très important, ça. Si on prenait l'essence ou la quidité divine comme raisonnement, ce que saint Anselme fait, le nom divin, la signification de ce qui est Dieu, on aurait un argument a priori. L'argument a priori, c'est celui qui se prend à partir de l'essence. Mais il faut prendre les effets comme dans les démonstrations quia. Donc là, il faut savoir ça. Hein. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Des choses élémentaires de connaissances aristotéliciennes et scolastiques. Et là, l'aristotélisme est vraiment à la source de la scolastique. Il faut distinguer les arguments a priori. Et les arguments a posteriori. Les arguments a priori, c'est les arguments qui partent de la définition et qui montrent tout ce qui est contenu dans la définition. Or, la définition regarde l'essence. Dans la mesure où je connais une essence, je peux démontrer tout ce qui est à partir de cette essence. Descartes appellera ça une argumentation modo-géométrico. Il ne faut pas l'oublier. À partir de l'essence, je démontre les propriétés. Alors saint Thomas nous dit, pas de démonstration à partir de l'essence pour prouver l'existence de Dieu. Saint Thomas maintiendra ça toute sa vie. Donc là, il est d'accord avec certains. Vous comprenez bien. Pas de démonstration d'existence de Dieu. Mais attention, hein, à partir de l'essence de Dieu. Mais les effets comme dans les démonstrations QIA. Ça, on appelle ça les démonstrations QIA. Démonstrations étant difficiles, c'est propre vers QIA. Donc, deux espèces de démonstrations. Vous verriez ça dans les analytiques, dans les seconds analytiques d'Aristote. Dans les seconds analytiques d'Aristote, Aristote distingue deux types de démonstrations. Une démonstration propterquive, une démonstration quia. Ça, il faut le savoir. Il faut l'apprendre par cœur, que voulez-vous. Il y a des choses qu'on doit apprendre par cœur. Il faut savoir ça. La démonstration propterquive, c'est la démonstration a priori. Elle se fait à partir des principes. La démonstration a posteriori, elle se fait à partir des effets. Je vois un feu, je vois une fumée dans l'air. Je dis, ah, il y a un feu. Je le sens spontanément, sans avoir beaucoup de raisonnement à dire. À partir Je dis, ah, il y a un feu. Je le sens spontanément, sans avoir beaucoup de raisonnement à dire. À partir de l'effet, vous posez la cause. Vous voyez, vous savez bien, c'est dans l'écriture, quand on voit dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, on voit que les prêtres mettent le serpent auquel les fidèles doivent offrir des présents. Et on dit que les dieux avalent cette nourriture tous les jours. C'est pour ça que les fidèles doivent mettre des mets délicieux pour que les dieux, ayant mangé des mets délicieux, soient de bonne humeur et que la journée, alors, soit pleine de choses merveilleuses. Alors Daniel, pour démontrer que ce n'est pas le bois et qui avale la nourriture et ce n'est pas le dieu, il met du sable, le soir. Et puis le matin, on voit des traces de pas. À partir des effets, on montre que ce n'est pas le boa qui a mangé, mais que c'est un homme qui est passé. Vous voyez, à partir des effets, pas démonstration a priori, ça n'aurait pas porté. Les dieux ne peuvent pas être un boa, donc ils ne peuvent pas manger. Ça n'aurait pas porté, puisque pour eux, le dieu était un boa. Donc il mangeait, et il devait manger, on devait lui offrir. Il fallait donc une démonstration stratégique par les effets. N'est-ce pas ? Et alors une démonstration stratégique par les effets, c'est moins direct, c'est évident. Il faut mettre du sable le soir et préparer, disposer pour qu'on puisse attraper la trace. N'est-ce pas ? Alors on attrape la trace. Démonstration par les effets. Et vous remontez à la cause. Alors, ça c'est très important de comprendre ça. Il n'y a pas de démonstration a priori, il n'y a pas de démonstration propterquive a priori de l'existence de Dieu. Or, seule la démonstration a priori est parfaitement scientifique. Donc, il n'y a pas de démonstration parfaitement scientifique de l'existence de Dieu. Soulignez ça 10 fois. Pour ne pas dire des bêtises et tomber dans Descartes. Parce que c'est Descartes qui dira qu'il y a une démonstration proprement scientifique de l'existence de Dieu. Une démonstration a priori, modo geometrico. Et c'est en ce sens-là qu'on engendre des athées, à partir de là. Parce qu'on dit des bêtises. La plus grosse bêtise que Descartes a dit. Parce que c'est grave de dire ça. Et s'il avait lu saint Thomas, il n'aurait pas dit ça. Mais il avait des maîtres suarésiens. Il ne faut pas l'oublier. Entre saint Thomas et Descartes, il y a Suarez. Et qui fait qu'alors on ne voit plus les choses avec autant de netteté. Mais c'est pour ça que je vous dis ça. Et c'est pour ça qu'il faut lire le Contrat Gentilès. Le Contrat Gentilès, c'est le lieu où on voit ça avec netteté. Il reprendra ça dans la Somme, mais quand on l'a lu dans le Contrat Gentilès, alors c'est de beaucoup plus lumineux. Saint Thomas précise que dans les raisonnements par lesquels on démontre que Dieu existe, il ne faut pas prendre pour moyen terme l'essence ou l'acuité divine, mais les effets comme dans les démonstrations QIA, et que c'est à partir des effets que se prend la signification du nom Dieu. En effet, tous les noms que nous donnons à Dieu, nous les lui donnons soit en écartant de lui ses propres effets, soit en raison d'un certain ordre entre Dieu et ses effets. Donc ça, c'est très très net. Tous les noms de Dieu se prennent à partir des effets. Ici apparaît pour la première fois une réflexion critique précisant le caractère propre de la démonstration d'existence de Dieu. Or, cette précision provient manifestement de la logique aristotélicienne. La petite arme, la distinction entre démonstration propre et fluide et démonstration pure. Ça n'a l'air de rien du tout, mais c'est capital, vous voyez ? Parce que je dis que de ce côté-ci, il n'y a pas de démonstration d'existence de Dieu. Et là, je suis d'accord avec les fidéistes. Je leur donne un petit os à manger. Je dis, mais oui, je suis d'accord avec vous. C'est bien évident qu'il n'y a pas de démonstration proprement scientifique de l'existence de Dieu. Alors, ah, vous êtes thomiste? Oui, et je suis thomiste, et je le dis. Alors, quand on dit ça, mais non, les thomistes disent qu'il y a une démonstration scientifique. Mais non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Il n'y a pas de démonstration proprement scientifique. La seule démonstration proprement scientifique, selon les analytiques d'Aristote, c'est la démonstration par circuit. C'est celle qui repose sur la définition essence. C'est celle qui repose sur les principes. Il n'y a pas de connaissance scientifique en dehors de la connaissance de la cause. Aristote le répète tout le temps. Mais il y a un autre type de démonstration qui est une recherche. Oui, on trouve la recherche. Qui est une recherche. Il y a une autre démonstration qui est QIA et qui est a posteriori. Alors celle-là, c'est une recherche, c'est une découverte. Tandis que là, ce n'est pas une découverte. Je conclus les propriétés. C'est le capitaliste qui, à partir de son capital, déduit les revenus. Oui, là c'est la propriété. On déduit. Tandis qu'au contraire, la démonstration QIA, la démonstration a posteriori, à partir des effets, est un dévoilement. Je découvre quelque chose qui est plus grand que mon point de départ. Tandis que dans la démonstration a priori, je découvre quelque chose qui est moins grand que mon point de départ. C'est ça la démonstration scientifique. La conclusion est possédée par le savant parce qu'il a la connaissance de la définition et des principes. Ça, c'est capital de comprendre ça. Hein. C'est la purification de notre esprit quand on a compris ça. Une fois qu'on a compris ça, beaucoup moins de danger de tomber dans le panneau. Après avoir montré qu'il n'est pas vain de s'efforcer de démontrer que Dieu existe selon une démonstration imparfaite, puisque la démonstration QIA et a posteriori est une démonstration imparfaite. Elle n'est pas proprement scientifique. Elle prépare, elle est très intéressante, elle est dans l'ordre de la recherche. Tout ce qui n'est pas proprement scientifique est dans l'ordre de la recherche. Tout ce qui n'est pas proprement scientifique. Ce qui est proprement scientifique est de l'ordre de la possession, de l'ordre de l'avoir. Tandis que ce qui n'est pas proprement scientifique est de l'ordre d'une recherche. Je sais que je peux indéfiniment avoir dans cette démonstration quelque chose de plus précis. Parce que justement, par définition, elle n'est pas totalement scientifique. Elle n'est pas parfaite. Donc, après avoir montré qu'il n'est pas vain de s'efforcer de démontrer que Dieu existe, saint Thomas, dans le chapitre 13, va exposer les rationes, traduisez les raisonnements, les rationes. Hein. C'est intéressant. Pour vous familiariser un peu avec le langage de saint Thomas, j'insiste, étant donné que ça en vaut la peine quand même. les rationes, les raisonnements par lesquels aussi bien les philosophes que les docteurs catholiques, quand saint Thomas parle des docteurs catholiques, il parle de tous les pères de l'Église, ont prouvé que Dieu existe. Donc saint Thomas se met dans une grande tradition, il le sait. Et cette tradition, je vous affirme, hein, quand on la regarde de près, on voit qu'elle est très importante. Très très peu parmi les pères de l'Église qui ont dit que l'intelligence humaine ne pouvait pas atteindre l'existence de Dieu. Je crois qu'il y en a un. C'est très exceptionnel. En disant c'est trop difficile, c'est impossible, vous voyez, des choses comme ça, en regardant la question de fait. Ces raisonnements, ces rationnels, sont au nombre de 5, dont 4 sont empruntés à Aristote et 1 à Jean Damascène. Intéressant, partage des eaux. Hein. Un argument, Jean Damascène, les docteurs, et tous les autres, les philosophes. Sur les 5, il nous dit qu'il y a 5. Hein. Après, il suffit de les compter. C'est facile. Dans le contrat Gentilès, vous trouvez les 5. Donc, vous trouvez à l'état embryonnaire les 5 voies d'Asèle. C'est pour ça que si je ne regarde pas ces 5 rationnels, j'ai beaucoup de peine. Je peux, hein. La somme peut se comprendre en dehors du contrat Gentilès. C'est sûr. Mais c'est plus facile d'avoir l'ordre génétique. C'est plus facile de regarder les 5 rationnels avant de regarder la somme. C'est ce que nous allons faire, si vous voulez. Même si c'est un peu long, nous allons faire ça. Je crois que ça vaut la peine. Alors, je vous demande, si vous avez un peu de temps, de mettre votre nez dans le contrat Gentilès, de lire au moins les 15 premiers chapitres du Contrat Gentilès. Les deux premiers raisonnements, ici je vais résumer, je ne peux pas donner tout. Les deux premiers raisonnements exposés sont ceux par lesquels Aristote prouve que Dieu existe à partir du mouvement. Et cela selon deux voies. Aristote n'a jamais dit ça, hein, mais saint Thomas dit que ça, Aristote le dit. Très amusant, ça. Oui, ça montre la liberté de saint Thomas. Je ne fais pas saint Thomas un historien au sens de Gilson. Non, non. Un historien des doctrines, je veux dire. Les deux premiers raisonnements exposés sont ceux par lesquels, il le dit, c'est de saint Thomas, ça, c'est pas moi. Saint Thomas dit dans le Contrat Gentilès, donc au chapitre 13, Aristote prouve que Dieu existe à partir du mouvement. Ex parte motus. Et cela selon deux voies. Alors, vous regardez tout Aristote, Aristote ne dit jamais ça. Mais c'est saint Thomas qui interprète. C'est saint Thomas qui se sert, qui utilise. Parce que vous voyez, dans le contrat gentil, dans la physique, Aristote montre en effet qu'à partir du mouvement, je m'élève jusqu'au premier moteur. Mais Aristote ne dit pas que c'est Dieu. Mais alors, un petit télescopage amusant, très intéressant. C'est pas erroné ce que dit saint Thomas. Hein. C'est juste. Mais c'est juste, non pas d'une vérité historique, c'est juste beaucoup plus profondément. C'est que, en effet, ce que dit Aristote me permet de dire ça. On découvre dans Aristote. C'est ça être prophète selon Aristote. Bon, vous voyez, être prophète. Saint Thomas est le prophète d'Aristote. Hein, parce que à partir de ce que dit Aristote, il découvre quelque chose qu'Aristote n'a pas dit. Il faut bien le voir comment il le fait. Hein, c'est très intéressant ça. Parce que c'est à partir de là qu'on dira que c'est pas la même métaphysique. Vous comprenez? Alors, voici le premier argument. Je vous le lis. Ça, c'est du saint Thomas tout pur. Hein. Donc c'est facile. Tout ce qui est mu par un autre. Évidemment, cet argument vient d'Aristote. Cette preuve que le père Gérard des Lauriers dit que ce n'est pas un principe, mais qu'il y a un moyen terme. Je crois que c'est un principe. Tout ce qui est mu par un autre. Ça, il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Je crois que si, en effet, vous traduisez ce principe de philosophie de la nature en physique moderne, ce n'est plus un principe. Il y a un métaxus. Parce que le propre d'un principe, ce n'est pas avoir de métaxus, c'est-à-dire l'attribut est immédiatement compréhensible par le sujet. Donc, ça, il faut le retenir, hein, là aussi. Oui, en rouge, je marque en rouge ce que vous devez retenir par cœur. Tout ce qui est mu, avant, ce qu'elle disait très joliment, le faux du miracle, hein, c'est que quand on connaît, on n'a plus besoin de retenir par cœur. L'intelligence supplée à la mémoire. C'est très vrai. Alors, tant que vous ne l'avez pas compris, retenez-le par cœur. Et le jour où vous l'aurez compris, la mémoire à la poubelle. Tout ce qui est mu par un autre. Or, il est évident, pour les sens, que quelque chose est mu. Le soleil, par exemple. Ça, c'est Saint Thomas. C'est ni Aristote ni Saint Thomas. C'est Saint Thomas. Le soleil, par exemple. Le soleil est donc mu par un autre moteur. Ce moteur est lui-même mu, ou bien il ne l'est pas. Ça, c'est très simple. Un petit gosse pourrait croire ça. S'il n'est pas mu, nous tenons ce que nous cherchions. À savoir qu'il est nécessaire de poser un certain moteur immobile. Et cela, nous l'appelons Dieu. Si au contraire, il est mu, il est donc mu par un autre moteur. Il faudra donc ou bien remonter à l'infini, ou bien s'arrêter à un certain moteur immobile. Mais on ne peut pas remonter à l'infini, donc il est nécessaire de poser un certain premier moteur immobile. Comme c'est simple, comme raisonnement. Simplicité merveilleuse. Les tournants ne sont pas comme hein. Je garde... C'est pas comment d'avoir ça, mais c'est une simplicité absolue. Je suis parti, vous voyez, et c'est intéressant à comparer avec la somme. Hein. C'est très intéressant à comparer avec la somme. Je pars d'un principe absolument universel. Tout ce qui est mu par un autre. Pour saint Thomas, c'est un principe. Pour le père Gérard de Laurier, ce n'est pas un principe. Alors, faites vos choix. N'est-ce pas ? Tout ce qui est mu par un autre. C'est un principe au niveau de la philosophie de la nature. Ce n'est pas un principe si vous l'interprétez au niveau de la physique contemporaine. Alors, je suis tout à fait d'accord. Il y a deux lectures, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a deux lectures, il faut faire grande attention, parce que le contexte de saint Thomas, il n'y avait pas la physique contemporaine. Oui. Bienheureux saint Thomas, il pouvait dire ça sans précision. Nous sommes obligés de le dire avec précision à cause du père Gérard. Donc on est obligé de le dire avec précision. Tout ce qui est mu par un autre. Il faut le dire avec précision. Il faut dire, je ne me situe pas au niveau de la physique contemporaine, je me situe au niveau de la philosophie de la nature. Si je me situe au niveau de la physique de la nature, alors c'est un principe. Tout ce qui est mu par un autre. Et vous comprenez pourquoi c'est un principe. Saint Thomas ne le dit pas ici, mais il l'explique quand même dans le contrat Gentilès. Il montre tout ce qui est mu, du fait même qu'il est mu, il implique une potentialité. Parce que si on est mu, ça veut dire qu'à ce moment-ci, j'ai telle détermination. À tel autre moment, je n'aurai une autre. La détermination que vous avez maintenant, c'est d'être assis sur une chaise. Dans quelques instants, vous allez vous lever. N'est-ce pas ? Donc vous allez vous mouvoir. Vous n'aurez pas la même situation. Comment se fait-il que vous, si vous étiez Bouddha, vous ne pourriez pas vous lever ? Parce que vous seriez fixé éternellement sur la chaise. Comme immobilité, si vous étiez non-mutor. Hein ? Dieu dit non-mutor. Je ne suis pas mobile. Je ne suis pas immobile. C'est une belle affirmation. Je ne peux pas être mu. Dieu ne peut pas être mu. Il est nax, fixe. S'il est nax, fixe, il ne peut pas être. Tandis que si vous, vous pouvez vous mouvoir, vous êtes assis et vous levez. Pourquoi ? Parce qu'il y a en vous une potentialité. Vous êtes en partie actué en étant assis, c'est vrai. En étant assis, on se repose partiellement. La preuve, c'est qu'on se fatigue quelquefois d'être assis. Donc si vous fatiguez d'être assis, ça prouve que vous n'êtes pas entièrement actué. Vous avez besoin de temps en temps de vous lever. Et quand vous êtes levé, vous n'êtes pas entièrement actué, puisque vous vous fatiguez d'être debout. vous vous mettez à genoux et vous vous fatiguez d'être à genoux parce que vous n'êtes pas entièrement actué. Donc vous êtes partiellement actué. Partiellement actué étant debout, partiellement actué étant assis, partiellement actué étant en prostration ou à genoux. Toujours partiellement actué. Parce que vous êtes partiellement actué, ça prouve qu'il y a une potentialité plus radicale que l'acte. Et donc, tout ce qui est mu par un autre. Ce n'est pas votre potentialité qui explique la position dans laquelle vous êtes. Alors, évidemment, comme vous êtes un vivant, vous vous êtes assis vous-même. Si vous n'étiez pas vivant, n'est-ce pas, et si vous tombiez, vous seriez obligé qu'un autre ramasse. Ou bien qu'un autre vous assoie. Quelqu'un qui est paralysé, hein. Allez, on le transporte, ou on l'assume, c'est un peu moins souple. Et vous vous mettez dans la fauteuil. Tant qu'il n'y a pas un autre qui vient le chercher, tu resteras dans le fauteuil. Tandis que le vivant, non, il se lève. Quand il en a assez. C'est l'heure. Vous faites toute l'expérience de voir tout ce qui est mu est mu par un autre. Ça, il faut réfléchir ça longuement. Tout ce qui est mu par un autre. Alors, en comprenant votre supériorité de vivant, d'être mu par vous-même. Mais comprenez bien, vous êtes mu par vous-même grâce à votre âme, mais votre corps est actué partiellement quand il est assis. Il est actué partiellement quand il est debout. C'est pour ça qu'il peut y avoir de la fatigue. La fatigue provient de la potentialité. Si vous étiez parfaitement actué, il n'y aurait jamais de problème.